Bonjour à vous tous. Une excellente, excellente Pentecôte. Le titre de mon message aujourd'hui, la Pentecôte et les noces de l'agneau. La Pentecôte et les noces de l'agneau. Dans l'Ancien Testament, il y a 5 livres qui sont désignés comme étant ce qu'on appelle les rouleaux pour les jours de fête. 5 livres spécifiques qui sont désignés comme étant les rouleaux pour les livres de fête. Et chacun de ces livres-là était lu dans les synagogues à des jours de fête précis. Un de ces livres-là, c'est le livre de Ruth. C'est un tout petit livre qui comprend seulement 4 chapitres. C'est tout court, mais ô combien rempli de signification, surtout par rapport à la Pentecôte qu'on célèbre aujourd'hui et par rapport au retour du Christ et aux noces de l'agneau où le Christ va épouser l'Église, pris collectivement. Alors, c'est un petit livre de 4 chapitres situé entre Juges et 1 Samuel. Et comme on va revenir de temps à autre au cours du sermon dans ce livre-là, alors, c'est peut-être bon que vous gardiez un petit marqueur dans le livre de Ruth. Ça sera plus facile pour suivre et revenir aux besoins. Alors, c'est un livre qui était très approprié, vous allez voir. C'était très approprié à l'époque pour la Pentecôte et ça l'est encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça nous montre les origines généalogiques de la maison de David. Et en même temps, donc, du Christ. Parce que le Christ est issu de la maison de David. Bon. Et important aussi parce que ça nous montre le but ultime des vrais chrétiens. Se voir donner l'immortalité, c'est-à-dire 100% de l'Esprit de Dieu, devenir des êtres immortels et, en tant qu'Église, épouser le Christ. Et ça nous montre aussi ce petit livre-là, comment y parvenir. Ça nous donne des indications précises. Je vais vous raconter une belle histoire. Je sais que vous aimez les belles histoires, mais les histoires vraies. Et les histoires qui se terminent bien. Et dans le livre de Ruth, ça se termine bien. Comme la belle histoire que Dieu entretient avec son Église et que le Christ, en tant que chef suprême, développe actuellement avec les appelés, ceux que Dieu a attirés à lui, va bien se terminer si nous faisons notre part. Alors, on va examiner cette merveilleuse histoire qui est remplie d'enseignements puis de leçons précieuses pour nous aujourd'hui. Et qui nous montre ce que nous devons faire pour nous préparer justement aux noces de l'agneau. Vous savez, ça va être un événement dans l'histoire. Un événement sans précédent sur les noces de l'agneau. Il n'y a pas beaucoup de détails donnés dans la Bible là-dessus. Mais à cause de l'emphase que Dieu y met, on sait que ça va être un événement grandiose, incroyable. De toute façon, écoutez, ça va être les retrouvailles des serviteurs de Dieu qui sont morts au cours de l'histoire et qui se connaissaient. Et ça va être le contact, pour la première fois en direct, de tous les serviteurs au cours de l'histoire qui sont morts à des étapes différentes ou qui auront été transformés au retour de Christ d'ici quelques années, mais le premier contact avec ceux qu'ils n'ont pas connus dans l'histoire. Le moment pour vous et moi, si on est transformés à ce moment-là, de rencontrer Abraham face à face, de rencontrer Noé face à face et les autres serviteurs de Dieu. Monsieur Armstrong, moi je l'ai connu personnellement, d'autres ne l'ont pas connu ici, certains l'ont connu aussi. Retrouver Monsieur Appartient. Alors, il y aura toutes ces choses-là qui vont se passer lors des noces de l'agneau. Et ça va être le lancement du monde à venir. C'est ça que ça veut dire aussi. Je ne veux pas aller plus loin dans l'explication des noces de l'agneau, mais vous entrevoyez, je pense, qu'on pourrait étendre la compréhension de ce phénomène-là qui va être vraiment unique dans l'histoire. Alors, l'histoire de Ruth nous montre ce que nous devons faire pour nous préparer aux noces de l'agneau. Alors, dans le message aujourd'hui, nous allons voir les événements entourant le mariage de Boaz et de Ruth, dont le livre porte le nom. D'abord, je vous en donne un résumé. Parce que je veux me garder du temps pour expliquer certains points précis. Je vous en donne un résumé. Il y a eu une famine à un moment donné sur le territoire de Juda, une très grande famine. Il y a un homme qui habitait à Bethléem qui s'appelait Élimélec. Sa femme s'appelait Naomi. Et eux, à ce moment-là, à cause de cette grande famine-là, ont déménagé. Ils sont partis et sont allés au pays de Moab. Ils avaient deux garçons. Et arriva ce qui devait arriver. Les deux garçons se sont mariés, mais en terre moabite. Donc, ils ont épousé des filles de Moab. OK? Bon, jusque-là, l'histoire se développe de cette façon-là. Peu de temps après, le malheur frappe. Élimélec meurt. Les deux fils d'Élimélec, qui étaient mariés à des Moabites, meurent aussi. Reste donc Naomi, la veuve, avec les épouses de ses deux fils. Ça, c'est la situation, en territoire de Moab. Alors, Naomi, sachant que la famine en territoire de Juda est terminée, veut retourner dans son pays. C'est normal. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que ses deux brus disent, on veut aller avec toi. On va t'accompagner. Mais le fait est que dans l'histoire, une seule a finalement suivi Naomi pour s'en aller en terre de Juda. Ruth. Caractère très spécial. Personnage très particulier qui représente beaucoup de choses, vous allez voir. Ruth était très pauvre. Elle et sa belle-mère sont arrivées en territoire de Juda au moment de la petite récolte du printemps. Ça vous dit quelque chose? La Pentecôte est au moment de la petite récolte du printemps. Alors, elles sont arrivées en territoire de Juda à ce moment-là. Comme elles étaient pauvres, très pauvres, qu'est-ce que Ruth a fait? Elle a fait ce qu'elle devait faire pour servir sa belle-mère, pour l'aider, puis s'aider elle-même. Elle est allée chercher de la nourriture. Et elle a utilisé une loi ancienne qui était en application à ce moment-là dans Israël. C'est qu'on pouvait aller sur les terres où il y avait eu moisson pour aller ramasser ce qui était tombé par terre. C'était permis par la loi. Et même Dieu commandait aux propriétaires terriens, lorsqu'ils faisaient la moisson, de laisser ce qui échappait, de le laisser au sol. Même les grappes de raisin ou les autres fruits ou quoi que ce soit, de le laisser au sol. Pour la veuve, l'étranger, l'orphelin, la loi est ainsi faite. On voit la mentalité de Dieu avec ça. Alors, ce que Ruth a fait, elle est partie, puis elle est allée ce qu'on appelle glaner. C'est-à-dire, elle est allée ramasser ce qui était tombé derrière les moissonneurs pour avoir de quoi manger. Il n'y avait aucune assistance sociale pour personne à l'époque. Écoutez, nous, dans nos pays modernes, actuels, on a l'impression parfois que l'assistance aux gens par le gouvernement, ça a toujours été le cas, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle, quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'aide de la part du gouvernement. Absolument pas. Et quand on remonte plus loin, c'est encore plus difficile, autant que je vous parle. Alors, Ruth est allée dans le champ, elle a ramassé des épis restés au sol pendant la moisson. Elle a donc glané. Alors, comme je dis, la loi enjoignait un propriétaire terrien de ne pas ramasser ce qui restait dans son champ, dans sa vigne, de ne pas retourner chercher même une gerbe qui était oubliée ou des fruits qui étaient restés à terre, parce que Dieu disait, ça va être pour l'orphelin, la veuve, celui qui est pauvre, et l'étranger qui est de passage sur votre territoire. Maintenant, je vais plus loin dans le récit. Le champ où Ruth est allée glaner appartenait à un dénommé Boaz. C'était, comme par hasard, mais c'est pas un hasard, parce que Dieu est en arrière de toute cette histoire-là, vous allez voir. Ce champ appartenait à un dénommé Boaz, qui était un parent de Naomi, de la belle-mère de Ruth, par alliance, par Élimélec. OK? Donc, c'était un membre de la famille. Mais elle ne le connaissait pas, là. Et cet homme-là, Boaz, qu'est-ce qu'il a fait? On le voit dans l'histoire. Il a protégé l'étrangère, Ruth. Il l'a même encouragée. Il a pris soin d'elle. Il n'a pas abusé d'elle d'aucune façon. Il ne l'a pas rejeté non plus. Il a appliqué comme faut la loi de Dieu. Il est allé même plus loin. Et vous allez voir ce que ça veut dire pour nous maintenant. Alors, Ruth a continué d'aller glaner dans le champ de Boaz. Et ce qui est arrivé, voyant la bonté de cet homme-là, comment l'homme ne profitait pas d'elle, ne la rejetait pas, mais au contraire, la protégeait, l'encourageait, elle a eu de l'admiration pour lui. Et l'amour commence comme ça, hein? Elle a eu de l'admiration pour cet homme-là. Elle a eu de l'affection pour lui. Et elle a eu de l'amour pour Boaz. Vers la fin de la récolte, il s'est passé quelque chose. Naomi, la belle maman, a vu ce qui se passait. Elle a vu les commentaires de Ruth et elle a dit à Ruth quoi faire pour faire connaître à Boaz son désir de devenir son épouse. Elle lui a dit quoi faire, comment procéder dans la justice, dans la bonne façon de faire, pas dans la façon de la société moderne de courir après les garçons ou de courir après les filles. Il y avait une façon honnête, pure, selon les lois de Dieu. Alors Naomi a dit à Ruth quoi faire et Ruth l'a fait. Et elle a fait connaître à Boaz son désir de devenir sa femme. Mais, il y avait un problème à régler. Parce que il y avait un autre individu qui avait un droit prioritaire sur Ruth. Il y avait un autre individu qui avait un droit prioritaire, un autre individu de la famille. Parce qu'il y avait un ordre de priorité dans la loi qui avait été établie par Dieu. Il a fallu que Boaz, pour être capable d'épouser Ruth, la rachète. La rachète. Déjà, vous voyez un peu des parallèles. On va aller plus loin là-dedans. Et ils se sont mariés et ils ont eu un fils. Bon. Et Naomi, elle, bon, si on prend rapidement son histoire, à part de son pays, elle s'en va d'un pays nouveau, ses deux fils marient des filles de là, son mari meurt, ses fils meurent, elle se retrouve tout seule dans le dénuement le plus complet, et là, elle revient donc dans sa misère, mais au moins dans son pays. Alors ça, c'est ce qu'elle avait vécu, mais elle a jamais critiqué Dieu, et elle a pas dit à Dieu, « Mon Dieu m'a abandonné, mon Dieu me fait souffrir, je ne peux pas croire en un Dieu qui permet que je vive ces choses-là. » Jamais vous voyez Naomi parler de cette façon-là. Elle parle au contraire de Dieu comme du Dieu puissant qui bénit. Donc, elle avait sa confiance en lui. Et on voit par sa façon d'agir qu'elle disait, dans le fond, « J'ai confiance en mon Dieu. Il va agir en son temps. Il va agir à sa façon. » C'est ce que son attitude dit. Alors, Naomi, qui avait été tellement éprouvée, arrive ce petit bonhomme-là dans la famille. Ça a été la joie de sa vieillesse. Ça a été le bonheur pour Naomi. Tout a changé à partir de là. Alors, à partir de cette belle histoire d'amour qui est une histoire réelle, on va voir des points de comparaison qui s'appliquent pour nous actuellement, qui nous apprennent beaucoup en ce jour que nous avons le bonheur de célébrer aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. Chacun des trois personnages majeurs de cette histoire symbolise quelque chose. Bien sûr, je vous rappelle qu'en arrière-scène, il y a le Père, il y a le Dieu suprême de l'univers, le gouverneur de l'univers qui arrange les circonstances pour que son plan s'accomplisse. Et l'histoire de Ruth et de Boaz est fortement symbolique de ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu l'avait déjà prévu depuis longtemps et a permis que cette chose-là se produise pour nous enseigner des choses à nous aujourd'hui. Alors chacun des trois personnages à l'intérieur de ces événements-là a une grande signification et symbolique et prophétique. Parce que ça annonçait des choses qui allaient se produire, à l'intérieur desquelles nous vivons maintenant. Boaz, homme bon, puissant, riche, représente le Christ. Boaz représente le Christ. Ruth, jeune femme moabite, très pauvre, sans ressources. Ça, c'est vous et moi individuellement. Ruth, jeune femme moabite, très pauvre, sans ressources. Ça, c'est vous et moi individuellement. N'ayant au point de départ aucune puissance spirituelle. N'ayant au point de départ aucune puissance spirituelle, aucun moyen de payer nos propres fautes. Aucun moyen, autrement dit, de nous racheter nous-mêmes. Ça prenait quelqu'un pour payer à notre place. Quelqu'un qui pouvait, lui, avoir la valeur suprême de payer pour les fautes de toute l'humanité, mais de chacun pris individuellement. Alors ça, c'est Ruth, qui vous représente, vous et moi, individuellement. Naomi, maintenant. La veuve éprouvée, mais fidèle à Dieu dans toutes les circonstances. Ça, c'est l'Église de Dieu. Ça, c'est l'Église de Dieu. Qu'est-ce que Naomi a fait par rapport à Ruth, par rapport à l'appeler, si vous voulez? Elle a encouragé Ruth. Elle a enseigné à Ruth comment faire. Elle l'a consolé. Elle l'a dirigé. Qu'est-ce que l'Église fait pour vous et pour moi? Elle nous console, elle nous dirige, elle nous enseigne, elle nous montre le chemin. Exactement. Alors là, vous avez les trois personnages avec ce qu'il représente, avec le symbolisme important qu'il veut dire. Allons dans Ruth. Allons dans Ruth, chapitre 1. Et le verset 15 à 17. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Je vous ramène dans l'histoire au moment où Naomi avait décidé, dans le territoire de Moab, de retourner dans Juda. Et où ses belles-filles avaient dit, « On va aller avec toi. » Il y a une qui a décidé de pas aller. Alors, la deuxième qui avait décidé d'aller avec sa belle-mère, Naomi, la belle-mère, lui dit, « Fais comme ta belle-sœur. Reste dans ton pays. Va vers les tiens. Va vers ta famille. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. » Et regardez la phrase puissante ici. « Où tu iras, Naomi, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Toute une déclaration, là, de la part de cette jeune femme-là, de la part de Ruth. Voyez-vous toute la signification qu'on peut extrapoler à partir de ça? Des mots simples. C'est pas des mots compliqués, mais des mots puissants et combien touchants, combien profonds, combien émouvants. On voit, par cette phrase-là, que Ruth était prête, ayant été appelée, ça va vous faire penser à quelque chose, à tout abandonner. Elle était prête à tout abandonner. Et le petit titre que j'ai donné à ce passage-là de mon sermon, c'est « Engagement total de Ruth ». Alors, Ruth était prête à tout abandonner. Son pays natal, sa famille, son peuple, les siens, sa religion, pour suivre Naomi. Vous savez ce que ça veut dire? Elle était prête à perdre son identité. Qu'est-ce qui fait votre identité, où vous êtes né, votre famille, votre nation, votre peuple, ce que vous avez vécu, la religion que vous avez eue, dans laquelle vous avez grandi, vos façons de faire, et ainsi de suite. C'est ça qui fait votre identité. Mais elle abandonné tout ça, elle vient de dire, je vais laisser tout ça de côté, je vais te suivre. C'est comme ce qui s'est passé exactement le jour où vous et moi, on a été baptisés. Qu'est-ce qui s'est passé? On a renoncé à nous-mêmes. On a renoncé à notre peuple. Pourquoi? Pour faire partie du peuple de Dieu. On a changé de citoyenneté. Mettons-le plus précis. On a resté citoyen de notre pays. On est encore citoyen, soit haïtien, soit de la Guadeloupe, soit de la France, de la Belgique, du Québec ou ailleurs. On a encore cette citoyenneté-là. Mais notre première citoyenneté, maintenant qu'on a revêtue à cause de l'appel de Dieu, c'est notre citoyenneté qui est dans le ciel. C'est membre de la famille de Dieu, membre du gouvernement de Dieu. On a renoncé à ça, à notre baptême. On a renoncé aussi à notre religion ancienne, si on en avait une. Mais si on pratiquait pas de religion, on se trouvait à en pratiquer une pareille. Parce qu'on pratiquait ce qu'on pensait faire, les choses à notre façon. Chacun faisait ce que bon lui semblait, mais ce n'était pas selon les lois de Dieu. Et on a abandonné aussi nos voies anciennes. Pour nous engager totalement, et rappelez-vous votre baptême, je me rappelle du mien, pour nous engager totalement, sans retour, dans une nouvelle voie, vers une nouvelle destinée qui est formidable, merveilleuse, qu'on n'avait jamais imaginée avant que Dieu nous la révèle, vers une nouvelle identité, l'homme nouveau, qui marche en nouveauté de vie, comme vous pourrez aller voir dans Romains 6, verset 4. En sortant des eaux du baptême, notre vie entière passée était effacée. On a eu l'imposition des mains, on a reçu le Saint-Esprit. Et là, c'était un homme complètement nouveau ou une femme complètement nouvelle. C'était le premier jour de notre vie spirituelle, du début de la vie éternelle. Nous avions reçu le dépôt, le gage du Saint-Esprit à partir de ce moment-là. C'est la bonté de Dieu qui nous a poussés à la repentance. On a été baptisés. On a pris l'engagement, rappelez-vous, de ne pas retourner en arrière, de ne pas retourner aux voies du monde, à nos anciennes façons de faire, à nos anciennes façons de vivre. Et le combat qu'on a commencé à ce moment-là, avec plus d'intensité et plus de succès, parce qu'on avait l'Esprit de Dieu, c'est d'éliminer de plus en plus les anciennes façons de faire qui avaient tendance à revenir et qui ont encore malheureusement tendance à revenir. Et le combat va continuer jusqu'au bout, jusqu'au retour de Christ. Mais on a pris l'engagement de ne pas retourner en arrière. Et les exemples dans la Bible de ceux qui se sont détournés, c'est pas des histoires qui finissent bien. Quand vous regardez l'exemple de la femme de Lot, par exemple, elle l'a fait. Mais vous voyez l'exemple puissant que Dieu nous donne. Une fois qu'on prend l'engagement, il faut continuer. Elle a rejeté ce que Dieu lui offrait, dans le fond, si vous regardez ça comme il faut. Elle a regretté Sodome parce qu'elle s'est retournée. Et dans le geste de se retourner, c'était pas juste une curiosité. Il y a tout le sens de regretter ce qu'on laisse derrière. Il y avait peut-être encore certaines choses bonnes dans Sodome qu'elle pouvait aimer. Mais Dieu dit, j'ai rien à voir avec ce monde-là. Le Christ n'a rien avec Bélial, le Christ n'a rien avec Satan, le Christ n'a rien dans le monde actuel. Et le monde actuel sera complètement changé. Le Christ va rien garder de ce monde-là lorsqu'il va bâtir la société nouvelle. Alors, on n'a pas à regarder en arrière. On a la bénédiction d'être rendu où on est et on doit travailler à continuer. Elle aurait peut-être voulu, la femme de Lot, garder certains aspects qu'elle aimait peut-être dans ce monde-là, qui n'était peut-être pas conforme à la loi de Dieu tout à fait. Mais une chose certaine, et puis ça, il faut faire attention, c'est qu'elle n'a pas vraiment cru Dieu. Vous y penserez un peu. Elle n'a pas vraiment cru Dieu. Parce que si on croit vraiment ce que Dieu dit, on le supplie d'avoir sa force et on s'en va là. Et on dit, Dieu, moi je suis faible, je peux pas y arriver, mais par ta puissance, je peux y arriver. Mais c'est là que je m'en vais. Je veux pas que rien ne détourne, et s'il faut que j'abandonne ceci ou cela, je vais le faire. Et même s'il faut que j'abandonne des choses qui peuvent sembler bonnes, mais qui parfois m'entraînent au mal, je vais enlever ça aussi, pour être certain de t'appartenir totalement. C'est ça, l'engagement total. Ruth a pris cet engagement-là. La femme de Lot a pas cru ce que Dieu disait. Fuyez, allez-vous-en, je vais prendre soin de vous. Luc 9, verset 62, on n'ira pas, mais Luc 9, verset 62 dit ceci, « Quiconque met la main à la charrue, c'est le Christ qui parle, et regarde en arrière, comme la femme de Lot, regrette des choses, aimerait se recommencer, n'est pas propre au royaume de Dieu. » C'est simple. N'est pas propre au royaume de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le royaume. Quand on va entrer dans le royaume, là, on va être content d'avoir tout laissé. Puis on ne voudra pas y retourner en aucune façon, ni d'aucune sorte. Moïse nous a donné un bel exemple de ça, d'engagement ferme, de choix définitif. Allez dans Hébreux 11. Hébreux 11. Ça vaut la peine. Hébreux chapitre 11 et le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bon, écoutez, on parle ici d'un poste prestigieux, avec beaucoup d'argent, beaucoup de gloire, beaucoup de puissance. Il dit, ici, Moïse a refusé ça. Et qu'est-ce qu'il a choisi à la place? D'avoir de quoi de mieux? Encore plus de richesse, plus de gloire, plus de vie excitante? Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et c'est quelque chose, là. Choisir quelque chose d'aussi facile, d'aussi attirant, physiquement, humainement parlant, pour dire, je laisse tomber ça, je vais souffrir, mais moi j'ai un but plus grand que ça. Je veux servir mon Dieu, je veux prendre un engagement total. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et c'est vrai. Et c'est vrai, car il avait les yeux fixés sur quoi? Sur le but, la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, etc., sans être effrayé de ce que Pharaon ferait, et ainsi de suite. Alors, un engagement total. La vraie repentance selon Dieu, c'est ça, la vraie repentance selon Dieu. Se rendre compte qu'on n'a pas obéi à Dieu dans le passé, et que là, on veut désormais le faire totalement, régulièrement, et de façon définitive. Notre engagement doit être total et définitif, comme celui de Ruth. Pas de retour, pas de retour. Écoutez, à quoi est-ce que nous retournerions? C'est un peu comme l'apôtre Pierre a dit à un moment donné au Christ, lorsque certains de ses disciples, pas des étrangers, des disciples ont quitté le Christ. Et le Christ s'est retourné vers Pierre et les autres et il leur a dit, vous autres, voulez-vous vous en aller, vous autres aussi? Pierre lui a dit, où est-ce que tu voudrais qu'on aille, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ben, oui, c'est ça. Et pour nous, c'est la même chose. Exactement la même chose. Alors, Ruth a donné une direction complètement nouvelle à sa vie. Et elle a agi dans cette direction. Une chose importante qu'elle a faite, elle a glané. Elle a glané, je reviens là-dessus. Ruth 2. Ruth, chapitre 2. Ruth, le chapitre 2. Et nous allons lire ici le verset 2 et 3. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et Naomi répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et elle se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Alors, ce travail d'aller glaner dans les champs de Boaz, son futur mari, c'est plein de signification pour nous autres. Qu'est-ce que ça fait un glaneur ou une glaneuse? Nuance. Il ou elle ne sème pas. Il ou elle n'entretiennent pas la récolte qui pousse. Ça, c'est le travail du propriétaire du terrain. Ça, c'est le travail du propriétaire du terrain. Un glaneur, c'est quelqu'un à qui on permet de bénéficier ou de profiter du fruit de l'entreprise de quelqu'un d'autre. Aux appelés que nous sommes, le propriétaire du monde permet et nous encourage et nous invite à glaner chaque jour la parole de la vérité pour en vivre. C'est ça qui nous permet de vivre spirituellement. Si on le fait à peu près pas, on survit. Et on est à risque de mourir. Mais si on le fait régulièrement, avec ardeur, avec reconnaissance, on se nourrit et on devient plus fort. Plus on obéit aux lois de Dieu, plus Dieu nous donne son Saint-Esprit. Alors, aux appelés qu'on est, le propriétaire du monde permet de glaner la parole de la vérité, de la recueillir chaque jour, précieusement, pour nous en nourrir, afin que nous devenions, et là j'arrête, afin que nous devenions cette parole vivante. Pourquoi? Parce que cette parole vivante, c'est le Christ mis en écrit. C'est sa mentalité, sa pensée. Et on doit s'en nourrir, en vivre pour devenir comme notre grand frère. Avoir la même mentalité, la même attitude, la même disposition. C'est ça. Dieu nous donne son Saint-Esprit et tout ce dont nous avons besoin pour développer son caractère, pour nous, comme la Bible dit, revêtir de fin lin, qui sont les œuvres justes des saints, pour nous préparer aux noces de l'agneau. Philippiens 2, s'il vous plaît. Allons dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 et le verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Le sens de produire en vous le vouloir et le faire, c'est Dieu qui vous rend capable de vouloir et de faire. Voyez-vous que tout nous vient de lui? Tout nous vient de lui, même d'être capable de vouloir. Parce que des fois, on a des luttes comme ça, on sait ce qui est bien, comme Paul avait la lutte en lui, hein. Je sais ce qui est bien, puis je voudrais faire ça, mais il m'arrive de faire ce qui n'est pas correct. Je vois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ce que je sais, des voies de Dieu. Qui va me délivrer du corps de cette mort? Le Christ, il le dit, dans Matthieu, pas dans Matthieu, mais dans 7:23. Alors ici, il dit bien, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Regardez le verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et c'est beaucoup ça, juste ça là. Nous devons porter en nous la parole de vie, dans notre façon de penser, dans notre façon de réagir, dans notre façon d'agir. Regardez le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, c'est Paul qui parle, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ça veut dire qu'on est le même, même si les gens ne nous voient pas. qu'on soit seul chez nous, qu'on soit dans un centre d'achat où on connaît personne, notre attitude doit être celle d'un ambassadeur de Christ, de quelqu'un qui porte en lui la parole de vie. C'est notre rôle de glaneur de la parole, c'est ça, d'être actif, d'aller chercher ce guide-là et de le faire nôtre pour en vivre, de garder tout ce qu'il faut pour en vivre et ne pas garder secrètement certaines attitudes mauvaises qui sont contre la loi de Dieu, en étant négligent aussi. On peut être négligent plus que zélé, et à ce moment-là, on n'avance pas. Au contraire, comme on y est invité souvent dans la Bible, il dit « ranimez l'esprit, hein? Ranimez en vous l'esprit ». Ça, c'est entretenir la flamme. Puis entretenir la flamme, ça se fait sur une base régulière. Sans ça, le feu, il diminue. Puis à un moment donné, la flamme risque de disparaître. Alors, au départ, vous et moi, on était comme Ruth, dans un état d'impuissance totale. Vous irez voir Romains 5, verset 6. Lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Lorsque nous étions sans force. On n'avait aucune force spirituellement. Et tous les humains de toutes les nationalités sont des pécheurs. Les Israélites aussi. Et tous les autres également. Et je fais une petite parenthèse ici. Ruth n'était pas israélite. Ruth était moabite. C'était une gentille. Elle ne faisait pas partie de la nation d'Israël. Mais déjà, par ça, par le fait que Dieu a orienté la situation et que Ruth est devenue l'ancêtre du Christ, l'ancêtre de David, Dieu montrait déjà par là qu'il était le Dieu de tous les êtres humains, quelle que soit leur nationalité. Parce que quand vous allez voir dans la Bible, Dieu veut que tous les êtres humains puissent parvenir au salut et à la vie éternelle. C'était déjà inclus, ou c'était déjà sous-entendu, ou c'était impliqué indirectement dans le fait que Ruth n'était pas israélite. OK? Déjà, Dieu montrait que sa vision était pour l'ensemble de l'humanité. Alors, ça représentait déjà le fait que dans son plan, des non-israélites, des gens des autres nations, de tout peuple, allaient faire partie de l'Église d'Israël spirituel après la Pentecôte de l'an 31. Le livre de Ruth est prophétique. Parce que maintenant, dans la Bible, c'est écrit que maintenant, Dieu appelle des gens de toute langue, tout peuple, toute nationalité, pour se créer un peuple. Maintenant, Ruth a été choisie par Dieu pour faire partie de la lignée généalogique de laquelle allait naître notre Sauveur, notre Rédempteur. Comme j'ai dit, Dieu est le Dieu de tous les êtres humains et il veut que tous, un jour, puissent parvenir au salut par la repentance. Tous ceux qui vont accepter et tous ceux qui vont être fidèles. Maintenant, je viens à Boaz. Je vous donne un élément concernant Boaz. Boaz a subvenu aux besoins de Ruth. Vous savez, le travail de glaner, c'était pas de tout repos, hein. Le travail de glaner, c'était pas de tout repos. C'était difficile, c'était exigeant. Elle était exposée aux moqueries. Elle risquait d'être maltraitée et peut-être même d'être attaquée par les moissonneurs. Cette femme étrangère qui était dans le champ avec ses hommes qui travaillaient là. Longues heures d'effort, avec peu de céréales au point de départ à ramasser, mais assez pour survivre au point de départ. Comme quand on vient à l'Église, on commence tranquillement, on comprend pas tout. Et on doit, quand il y a des choses qu'on comprend pas, les mettre de côté, continuer à glaner dans le reste, et à un moment donné, tout s'éclaire et on avance. Alors au début, Ruth n'avait pas beaucoup. Mais Boaz, comme le Christ fait pour vous et pour moi, il l'a protégé. Regardez Ruth 2, versets 8 et 9. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Boaz l'a pris sous son aile, il l'a protégé et a donné même des directives pour qu'on laisse tomber du grain par terre, qu'on laisse tomber même des gerbes entières pour que Ruth soit encouragée, qu'elle ait davantage de nourriture. Qu'est-ce que Dieu fait quand on vient à l'Église? On commence, on glane un peu ici, un peu là, on comprend certaines choses, pas tout. Et si Dieu voit qu'on met les choses en pratique, qu'est-ce qu'il fait? Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu en donne davantage. Et là, on est encouragé. Et là, on le voit intervenir dans nos vies, on le voit répondre à des questions. Des fois, de façon tout à fait surprenante. Des fois, on a une question dans la semaine. Moi, je me rappelle, quand je suis venu à l'Église, ça m'arrivait. On a une question dans la semaine. On va à l'Assemblée de sabbat. La réponse est dans le sermon ou dans la sermonnette. Il y a un chef d'orchestre en haut qui savait que moi, j'avais cette question-là. J'ai pas posé la question, mais Dieu m'a répondu d'une certaine façon. Alors Boaz, comme le Christ, a protégé Ruth et a même encouragé ses gens à laisser tomber des choses pour que Ruth soit encouragée et que ses efforts réussissent. Ruth 2, 14 à 17. Ruth 2, 14 à 17. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, alors tiens, ils ont mangé ensemble, là. Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et regardait, garda le reste. Elle ne gaspillait pas les choses, hein. Elle a gardé le reste du repas pour l'amener chez elle, pour elle et sa belle-mère. Puis elle se leva pour glaner. Elle n'a pas profité de l'occasion pour essayer de faire des beaux yeux à Boaz pour dire, bon, je vais être capable d'arrêter de travailler. Maintenant, il a de l'air à s'intéresser à moi. Je vais essayer de jouer mon jeu. Non. Je suis ici pour glaner. Je vais faire ce que j'ai à faire. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Lui, il regardait quelle sorte de femme c'était. Qu'elle glane aussi entre les gerbes. Oh. Voilà maintenant. Et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous laisserez tomber pour qu'elle glane, sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y avait environ un épha d'orge. Donc une belle petite quantité le soir pour retourner à la maison. Alors voyez-vous, le Christ ou Boaz a fourni davantage. Il regardait le caractère de cette femme-là, comme il regarde notre caractère se développer lorsqu'il nous appelle à l'Église et nous donne davantage. Mais Ruth avait des efforts à faire, comme nous aussi. Elle a d'abord dû amorcer peu et continuer chaque jour sans se relâcher, sans se décourager. De la même façon, nous, on doit chaque jour accumuler un peu de caractère divin en glanant dans la parole vivante, en la mettant en pratique. Puis en recevant automatiquement, à cause de ça, son Saint-Esprit, à cause de la promesse de Dieu. Parce que acte 5, verset 32, c'est en même temps une promesse. Il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Et il en donne plus à ceux qui s'appliquent à mieux obéir. En tant qu'être humain, vous savez, encore limité, je vous apprends rien. On est encore limité, très limité. Ça nous arrive parfois d'être découragé. On est des êtres humains. Faut pas se compter d'histoire. C'est comme ça. Et Dieu le sait aussi. Ça nous arrive d'être découragé. Ça nous arrive des fois d'être déçu par notre peu de croissance aussi. On dit, il me semble que j'avance pas. Il me semble que je progresse pas. Des fois, c'est vrai. Faut s'examiner. Ou, parfois, on va être insatisfait de nos efforts. Des fois, on peut avoir raison, mais des fois, on s'en met trop aussi. Ou des fois, on compte trop sur nos efforts. On a des choses à faire, mais faut demander l'aide de notre grand frère. C'est ça. Ça, il veut qu'on l'apprenne. En toute chose. En toute chose. Ou parfois, on est assailli par des doutes. Et il y en a un qui aime ça, entretenir les doutes. Parce que l'adversaire est content quand il peut y avoir des doutes dans l'esprit des enfants de Dieu. De toutes sortes de façons, toutes sortes de doutes imaginables. Il nous arrive même des fois de nous demander si Dieu nous aime encore. Certains membres de l'Église parfois se demandent, est-ce que Dieu m'aime encore? Monsieur Appartien nous a dit à combien de reprises? Ne laissez pas les doutes vous envahir. Il n'y a aucune raison d'avoir de tels doutes. Ne les gardez pas. Rejetez-les. Demandez l'aide tout de suite de Dieu pour vous en débarrasser. Regardez Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Et le verset 14. Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Regardez qu'est-ce qu'il nous donne, Dieu, lorsqu'on fléchit le genou, lorsqu'on lui demande son aide, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte continue d'être active plus que jamais actuellement dans les fils et les filles de Dieu pour qu'on aille jusqu'au bout, qu'on se rende jusqu'aux noces de l'agneau. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est puissant, puissamment fortifié. Alors, Ruth était sous la protection et sous les soins constants et attentifs de Boaz. Et si on continue, il y a un si on continue à s'efforcer à marcher dans les voies divines, de tout cœur, même si on n'est pas parfait, nous sommes en sécurité et nous n'avons pas aucune raison de douter de Dieu et de douter du succès, parce que c'est lui qui va nous le donner. Si nous sommes fidèles, lui va nous donner la victoire, en quoi que ce soit. Si nous faisons ça, nous sommes entre les mains du Christ, notre grand frère, le chef suprême de l'Église. Nous sommes sous sa garde personnelle. C'est beaucoup, ça. Nous sommes sous la garde personnelle du Christ. Il a appelé chacun de nous, Dieu le Père a appelé chacun de nous au Christ, pour que chacun puisse réussir, si nous faisons ce que nous avons à faire, avec son aide. Parce que lui nous donne tous les moyens nécessaires pour arriver au royaume. Si nous continuons à nous purifier, et si nous persévérons à changer pour faire sa volonté de mieux en mieux. Dieu a promis que nous allons y arriver parce que c'est lui qui va nous amener. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et c'est des promesses fantastiques, encourageantes. Vous irez voir Ésaïe 43, verset 1. On ne s'y reportera pas. Ésaïe 43, verset 1. Qu'est-ce que Dieu vous dit à vous personnellement et à moi personnellement? Quelles que soient les tribulations ou les difficultés par lesquelles nous avons à passer, il nous faut être fidèles et avoir les yeux sur le Christ, le chef et le consommateur de la foi, celui qui est le chef suprême de l'Église, qui a été représenté par Boaz. Il dit, « Ne crains rien, car je te rachète. » Ésaïe 43, verset 1. « Je t'appelle par ton nom. Quand vous avez été baptisés, votre nom a été inscrit dans le livre de vie. » Et c'est l'intention de Dieu, si vous n'abandonnez pas, de le laisser là, de vous amener à terme. Il dit, « Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » C'est fort, ça. Quand l'être le plus puissant de l'univers, celui qui a créé tout ce qui existe, vous dit, « Tu es à moi. Tu es sous ma garde. Si tu restes proche de moi et que tu avances dans mes voies. » Dieu est prêt à nous fortifier dans toutes nos faiblesses, dans toutes nos situations difficiles. Vous irez voir Ésaïe 41, verset 10. Je vous le cite. « Ne crains rien. » Ça, c'est tellement encourageant. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Voyez-vous, la relation personnelle que Dieu a avec chacun des appelés et que le Christ a avec chacun de ses petits frères et ses petites sœurs en préparation pour devenir l'épouse. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ne promène pas de regard inquiet. Dans certaines circonstances, qu'est-ce qu'on fait? La première réaction qu'on a des fois, dans des circonstances difficiles, qu'on comprend pas, ou on sait pas comment une situation va se terminer, on promène des regards inquiets. Parce qu'il y a un trouble à l'intérieur, il y a un malaise, on sait pas comment ça va finir. Si on est proche de Dieu, ça va finir pour le mieux. Ça va finir pour le mieux. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel aurait eu raison de promener des regards inquiets quand il a été question de quand Nabuchodonosor s'en est pris à lui. Les trois aussi qui ont été jetés dans la fournaise, ils ont dit non, on n'adorera pas ton Dieu. On sait que Dieu peut nous sortir de ça. Et si Dieu, dans sa volonté, ne permet pas qu'on en sorte, on va en sortir comme il faut à l'autre bout de l'histoire parce que c'est notre Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et ce qui est important, c'est sa volonté qui compte. On dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Et ça s'applique dans toutes les circonstances de notre vie. Je te soutiens par ma droite. J'ai souligné le dernier mot, triomphante. C'est pas par ma droite faible. C'est la droite tout-puissante de El Shaddai, de celui qui possède toute la force de l'univers. Parfois, on est ébahi devant la force d'un volcan qui éclate, par exemple, de quelque chose du genre. Mais c'est rien. C'est une infime partie de la puissance de Dieu. Dieu a mis ces forces-là dans la nature. C'est une ici, une là. Mais Dieu a mis en existence tout ce qui existe. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de gens qui ont choisi de servir Dieu, qui ont placé toute leur confiance en lui, quelles que soient leurs circonstances. Quelles que soient les circonstances, favorables ou non favorables. Comme les ministres doivent faire aussi. On en a l'ordre. Prêche la parole en toutes circonstances, favorable ou non. Et c'est ce que nous devons faire. Alors, il y a plusieurs exemples qui ont choisi de servir Dieu, qui ont placé leur confiance en lui. On voit Ruth ici, vous pouvez aller voir Moïse, Abel, Joseph, et ainsi de suite. Et Paul nous encourage à faire de même, à persévérer dans notre engagement comme Ruth. Allez dans Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, on va lire à partir du verset 1 à 3. « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, » il vient de donner une liste de personnages qui se sont confiés totalement à Dieu dans la foi, dans Hébreux 11. Il dit « On est environnés d'une grande nuée de témoins de Dieu. de serviteur fidèle. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Continuons, quelles que soient les circonstances, mais, en rejetant le péché, par exemple, ça, il vient de dire avant, là, si je ne rejette pas totalement ce qui est péché dans ma vie, si je ne travaille pas avec l'aide de Dieu à l'éliminer totalement, pour pas que je m'attende à avoir la grande protection de Dieu et son inspiration pour prendre les bonnes décisions et ainsi de suite. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui donne la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Paul dit, découragez-vous pas. Dieu va vous aider à passer à travers. Puis s'il y en a un qui a souffert, c'est Paul aussi. Puis Paul a tenu le coup, malgré toutes les circonstances. Un autre aspect de Ruth que je vous donne rapidement, c'est qu'elle a audacieusement cherché à épouser Boaz. De façon honnête, mais audacieusement, ce que je veux dire par là, avec zèle, avec courage. Elle a clairement exprimé, à un moment donné, le temps venu à Boaz, son désir de devenir sa femme. Et en ça, elle a suivi le conseil de Naomi, de l'Église. C'est pas pour rien que Dieu a mis un gouvernement dans son Église pour conseiller les gens, pour les aider dans la voie à suivre, pour venir en aide, pour consoler, pour encourager, pour les préparer au royaume. C'est le rôle du gouvernement de Dieu. Et c'est ce que Naomi a fait. Et c'est Naomi qui lui a dit, va vers Boaz et agis de telle façon. Elle l'a fait. Mais regardez, ça prenait du caractère. Ça prenait de la détermination. Boaz était très riche, homme respecté, grand propriétaire. Elle était pauvre, était impuissante, complètement dépendante. Elle a même admis, on peut lire dans Ruth 2, verset 13, elle a même admis à Ruth, pas à Ruth, mais à Boaz, qu'elle était moins importante, qu'elle était moindre que les servantes de Boaz. Regardez Ruth 2, verset 13. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Voyez-vous? Et là, Boaz a vu l'attitude, le caractère de cette femme-là aussi. Et ça lui a plu. Qu'est-ce qui nous est dit à nous? Vous irez voir dans Philippiens 2, verset 3. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est le même mandat qui est donné aux Ruth modernes, si vous voulez, à ceux et celles qui sont appelés maintenant à faire partie de l'Église. On doit considérer tous les êtres humains plus importants que soi-même. En ça, on suit l'exemple du Christ. C'est ce qu'il a fait. Il a considéré les autres plus importants que lui-même. Il s'est prosterné même pour laver leurs pieds. Lors de la Pâque, il a même donné sa vie, lui, le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Suprême, pour ces êtres méchants, pour les sauver, pour leur permettre d'être pardonnés puis d'avoir la vie éternelle. Alors Ruth a trouvé grâce à ses yeux. Il a vu qu'elle avait du caractère, il l'a aimée à son tour et il l'a épousée. Boaz a montré son amour pour elle alors qu'elle était encore une pauvre glaneuse dans les champs. Son amour a encouragé Ruth à rechercher avec lui une relation plus permanente. Ça s'est fait graduellement. Nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte. Grâce à Dieu et à son amour, on connaît la vérité. C'est vrai. On ne serait pas ici si Dieu ne nous avait pas appelés, s'il ne nous avait pas révélé ces choses-là. On connaît ses fêtes. On connaît le but réel de l'existence. Ça nous a été donné. On peut être pardonné. On peut être soutenu, consolé, encouragé par Dieu. Selon son plan, Dieu veut que son Église, nous tous, collectivement, nous devenions l'épouse du Christ. Mais il faut que nous nous vêtissions de fin lin, que nous soyons fidèles. Pour ça, il faut que graduellement, et ça c'est important, dans le fond, c'est la question de fond, il faut que graduellement, notre nature humaine soit complètement, totalement remplacée par la nature divine, par la nature de Dieu. Et il y a un but à ça, vous allez voir. C'est un aspect du mariage avec le Christ. Parce que au retour du Christ, qu'est-ce qui va se passer pour les serviteurs fidèles? Ils vont naître de Dieu et vont revêtir entièrement la nature divine, comme on voit dans les textes. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons devenir l'épouse du Christ en tant qu'Église. Pourquoi? Parce que nous serons entièrement et définitivement de même nature que lui. Nous serons sur le même niveau d'existence. Un homme et une femme se marient parce que c'est deux êtres de même nature sur le même niveau d'existence. Actuellement, ce n'est pas le cas. Nous sommes encore des êtres humains physiques avec un dépôt du Saint-Esprit qui nous aide à développer le caractère pour revêtir la nature parfaite de Christ. Et si on est fidèle jusqu'au retour de Christ, là, Dieu va nous rendre totalement êtres spirituels, capables de ne plus jamais pécher. Et là, nous serons à 100% êtres spirituels, de même nature que notre grand frère, que le plus vieux de la famille. Et là, nous pourrons être l'épouse du Christ. Le mariage pourra avoir lieu. Vous irez voir Romains 8, verset 9. Le Christ est le premier-né de plusieurs frères. Le Christ, il est le premier-né, celui qui a été transformé en être spirituel, d'être totalement physique qu'il était. Il a été le premier à naître de nouveau. Il a été le premier. Mais les autres s'en viennent. Ça va se passer au retour de Christ. Philippiens 3, verset 20-21. Philippiens 3, verset 20-21, je vous le lis. « Nous sommes citoyens des cieux. » Je vous ai dit tantôt que notre citoyenneté était d'ailleurs. « Nous sommes citoyens des cieux. » « D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Regardez bien, à son retour, qu'est-ce qui va se passer? Par sa force, par sa puissance, par sa présence, qui transformera le corps de notre humiliation, notre corps physique limité, qui transformera ce corps-là, le corps de notre humiliation, en le rendant semblable, c'est-à-dire pareil, au corps de sa gloire, à son corps glorieux. Et c'est là que nous serons exactement de même nature que lui, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dieu lui a donné tout pouvoir. Et c'est lui qui va opérer ça. Vous irez voir aussi un autre verset qui va exactement dans le même sens. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. On n'est pas nés de nouveau, mais on a reçu le dépôt du Saint-Esprit. Nous sommes engendrés maintenant. Nous sommes dans le sein de l'Église en croissance, en gestation, si vous voulez, jusqu'au moment de la naissance où nous serons transformés en êtres spirituels. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, engendrés. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand vous me regardez, quand je vous regarde, je vois pas rien de glorieux. Je vois des belles choses dans les actions des fils et des filles de Dieu, dans leur comportement, mais on n'est pas glorieux, on est des êtres humains physiques, avec nos maladies, nos petites difficultés, et ainsi de suite, notre vieillissement et tout ça. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi est-ce qu'on va être capable de le voir tel qu'il est? Comment il est actuellement? Il est un esprit, totalement esprit. Pourquoi on va être capable de le voir comme il est? Parce qu'on sera devenu esprit, totalement. Exactement. Donc, on sera devenu semblable à lui, et là, les noces de l'agneau pourront avoir lieu. Formidable. Écoutez, c'est votre destinée, c'est la mienne. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus grand, de plus incroyable, de plus inestimable que ça? Si on développe le caractère divin et si on persévère jusqu'à la fin. Ça, c'est important. Maintenant, je vous ai dit tantôt, je le précise, Boaz a dû racheter Ruth. En passant, je vous donne une petite information, vous pourrez aller voir dans Matthieu 1. Boaz était le fils d'un dénommé Salmon, de la tribu d'Israël, et sa mère s'appelait Rahab. Ça va vous dire quelque chose? Rahab, c'était la dame à Jéricho qui a reçu les espions. Celle que la Bible décrit comme la prostituée. C'était la mère de Boaz. OK? Alors, encore là, là-dedans, Dieu, dans son plan de miséricorde pour tous les êtres humains qui ont tous péché, personne n'est mieux que d'autres, mais Dieu permettait à des non-israélites d'être de la lignée de ceux qui allaient engendrer le roi David et ensuite le Christ. Et il montrait par là qu'il est le Dieu de tous les êtres humains et que son grand but, c'est que tous aient la chance de pouvoir, s'ils font ce qu'il faut lorsqu'ils sont appelés, entrer dans le royaume de Dieu et devenir ses enfants. C'est extraordinaire, c'est formidable. Alors, même si Boaz aimait Ruth et que Ruth aimait Boaz, il y avait quelqu'un qui avait un droit de rachat avant lui. Vous savez, quand la veuve d'un homme décédé sans enfant et sans frère voulait vendre sa terre, la coutume exigeait que le plus proche parent ou héritier du défunt rachète le domaine de la veuve. Ça, c'était la loi à l'époque. La terre, à ce moment-là, restait dans la famille. La coutume voulait aussi que le parent, suivant ce principe, épouse la veuve pour ne pas compromettre l'héritage de la famille. Alors, c'est ça, c'est comme ça que ça se passait. Mais il y avait un parent qui était en priorité sur Boaz. Alors, c'est pareil pour nous. Pour que le Christ puisse un jour nous épouser en tant qu'Église, il fallait d'abord qu'il nous rachète. Parce qu'on ne pouvait pas se racheter soi-même. Il y avait un autre qui avait un droit de propriété sur nous. C'est le prince de ce monde. On lui appartenait. Et il fallait que le Christ nous rachète, nous sorte de là, lave nos fautes et nous donne maintenant la force pour aller plus loin. Notre rachat, notre rédemption, elle a commencé avec la mort du Christ à la Pâque. Elle a commencé avec la mort du Christ à la Pâque. Et c'est un processus qui se continue. Notre rachat est en train de se continuer. Il va se terminer totalement lorsqu'on sera totalement spirituel. C'est encore en marche. Notre lutte se poursuit, hein, contre Satan, contre le monde de Satan, contre notre nature humaine avec ses convoitises. Notre combat pour éliminer le mal va continuer jusqu'au retour du Christ. Ça ne sera pas fini avant ça. Le Christ va nous libérer totalement de la loi de la chair quand? À son retour. Là, il nous donne la force quand on lui demande. Et graduellement, on avance, on progresse dans le développement de son caractère. Mais si on est en train de faire ça de tout notre cœur au moment où il revient, là, il nous donne la nature divine totale, l'esprit à 100%. Et à ce moment-là, nous serons libérés totalement de la loi de la chair. Par la résurrection, par la transformation totale en être spirituel, et là, il va nous donner son Saint-Esprit à 100%. Alors que maintenant, on a seulement un dépôt, une petite partie de l'Esprit Saint. C'est à ce moment-là que notre rachat ou que notre rédemption va être complétée. C'est à ce moment-là que notre libération va être totale. Le combat de Paul que je vous disais tantôt, c'est dans Romains 7, 23. Quand Paul dit, je veux faire le bien, mais il m'arrive de faire le mal. Qui va me libérer de ça? Comment je vais arriver au bout à réussir totalement? Il dit, heureusement, grâce au Christ seul. Et le Christ va compléter ce travail-là au jour de son retour, au moment où il va donner à ses serviteurs fidèles d'être transformés complètement. Et lorsque nous serons transformés, devenus complètement spirituels, on sera complètement rachetés, complètement libérés des œuvres de la chair. Hey, wow! Ça va être formidable. Complètement libérés des œuvres de la chair. Plus de convoitise, aucunement attiré par le péché. Comme le Christ n'était pas attiré par le péché, il a été capable de résister tout le temps. Même si la tentation était là, nous allons être capables d'être comme lui à ce moment-là. Et c'est possible de le développer dans la chair parce que c'est l'exemple qu'il nous a donné, lui, en étant totalement être humain. Nous allons être enfants de Dieu à part entière à ce moment-là. Nés en tant qu'être spirituel, capables de ne plus pécher jamais. De ne plus pécher jamais. Là, le Christ va être totalement en nous. Le Christ va être totalement en nous. Nous serons entièrement, et j'ai choisi mes mots, entièrement imprégnés par sa puissance. Entièrement imprégnés par sa puissance. Laissez-moi vous dire un petit quelque chose. Le sens du nom Boaz, qui représente le Christ, ça m'a frappé. En faisant ma recherche, j'ai tombé là-dessus. Dieu laisse rien au hasard, hein? Vous savez ce que ça veut dire, Boaz? En lui est la force. Boaz veut dire « en lui est la force ». Et Boaz représentait le Christ. Et toute la force de l'univers, elle est dans le Christ. C'est lui qui va nous emmener à terme, c'est lui qui va nous transformer, c'est lui qui va nous donner la vie éternelle, c'est lui qui va nous rendre être spirituel, qui va nous donner de naître totalement dans la famille de Dieu. C'est formidable. Maintenant, en terminant, Naomi symbolise l'Église. Je l'ai mentionné tantôt. Et c'est un rôle important. C'est un rôle essentiel. Parce que voyez-vous, quand on regarde l'histoire, là, c'est par elle que Ruth, ou vous et moi, elle a été mise en contact avec le vrai Dieu. C'est par Naomi que Ruth a été mise en contact avec le vrai Dieu. Par qui est-ce que vous avez été mis en contact avec le vrai Dieu? C'est avec l'Église de Dieu. C'est par l'Église de Dieu. Vous êtes comme moi, sans doute, avant, avant d'avoir été appelé par Dieu puis de venir à son Église, je croyais à un Dieu ou à un principe premier, mais je connaissais pas le vrai Dieu, absolument pas. Et je le découvre encore régulièrement, mais je l'ai connu grâce à l'Église, grâce au travail de M. Armstrong et des autres qui étaient avec lui et qui ont continué et qui continuent encore, grâce à M. Meredith, grâce à tout le travail que M. Appartient a fait, et ainsi de suite. Alors, c'est par Naomi que Ruth, vous et moi, on a été mis en contact avec le vrai Dieu, et c'est par Naomi que Ruth a été mise en contact avec son futur mari, et c'est par Naomi, l'Église, que Ruth a été enseignée comment faire les choses de la bonne façon pour se préparer à son mariage. Exactement. Comment faire les choses de la bonne façon. Alors, le rôle de Naomi, il est vraiment pareil au rôle de l'Église dans chacune de nos vies. C'est par l'Église de Dieu, et je m'exprime autrement, vous allez voir l'image aussi, c'est par l'Église de Dieu, par cette minuscule, grande œuvre que nous avons connu le vrai Dieu et que nous avons pris contact avec lui. Et la base du christianisme, c'est une relation personnelle de nous à lui. Par le ministère, l'Église nous a continuellement encouragés, nourris, parfois corrigés, malheureusement, on devait l'être, et on doit le faire à l'occasion. L'Église nous a guidés dans notre développement spirituel. L'Église nous a toujours incités à quoi? À garder les yeux sur le Christ, en sachant que c'est de lui que nous vient la force pour être capable d'aller jusqu'au bout. C'est ce que l'Église nous a toujours montré et qu'elle nous montre encore. Garder les yeux sur le Christ et sur le but pour devenir des êtres divins et être transformés totalement pour être capable de devenir l'épouse éternelle. J'aime ce terme-là dans cette expression-là, l'épouse éternelle du Christ. Ce n'est pas comme on... Il y a certaines cérémonies de mariage où on dit « jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Dans certaines églises, on prononce, après avoir prononcé les vœux, l'officiant dit ça, « vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Non, ça ne sera pas ça. C'est que nous allons être mariés au Christ pour toute la vie éternelle. Ou vous allez être mariés au Christ et rien ne pourra vous séparer de lui maintenant. Parce que vous allez être arrivés au but, au grand but que Dieu nous a fixé. Voyez-vous pourquoi le livre de Ruth était lu en Israël chaque jour de la Pentecôte. Et voyez-vous pourquoi il est encore approprié aujourd'hui de le revoir, de le lire, puis de voir la signification profonde que ça a, prophétiquement et symboliquement également. Prenez le temps de le relire. Relisez-le tranquillement, ayant à l'esprit un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous allez le voir d'une façon différente, puis vous allez voir que déjà, Dieu mettait dans ces événements-là qu'il a béni, Dieu mettait en germe son plan pour l'Église du Nouveau Testament en vue des noces de l'agneau. Ayez en tête aussi ce que représentent les trois personnages dont on a parlé. Si nous nous engageons totalement, comme Ruth, dans la voie que Dieu nous enseigne par son Église, vous savez, c'est une grandiose histoire qui va en se développant. Une merveilleuse histoire d'amour, rendue possible grâce à notre grand Rédempteur, une merveilleuse histoire d'amour qui va bientôt franchir une étape fascinante, celle des noces de l'agneau.